c'est moi qui ai la responsabilité de continuer. Après l'intervention, donc, je pense que Jean-Marc nous a dépeint une vision très, très précise, très profonde sur cette notion hein, du royaume de Dieu. Moi, donc, ce qui m'a été demandé dans la deuxième partie, c'est d'aborder la question des réseaux. Je vais me présenter, 2 minutes. Ce que je veux dire aussi, c'est que on va aller à peu près, je vais intervenir maximum jusqu'à 12 heures, ce qui fait que ça laissera au moins 20 minutes pour des questions, soit sur l'intervention de Jean-Marc, soit sur la mienne. Je pense que c'est bien, surtout que je crois qu'il y a des personnes qui partent à midi, qui ne seront pas là l'après-midi. Donc si vous avez des questions, c'est bien que vous puissiez les aborder, les poser avant de partir. Et puis qu'on essaye d'être concret et interactif. C'est un des objectifs de notre journée. Alors très, très rapidement avec Fabienne, donc nous on a maintenant 38 ans de ministère, c'est ça, 18 en Afrique. Nous on a commencé en mission. Donc on vient de Grenoble, église de Chandelier pour ceux qui connaissent. Donc on est né là-bas, on a grandi là-bas, et puis on s'est marié à Bourgoin, qui était une église annexe de Grenoble, et puis après on est parti 3 ans plus tard en mission. Moi j'ai découvert la réalité des équipes apostoliques et du travail apostolique en Afrique, en Centrafrique exactement, où j'ai été plongé du jour au lendemain dans une équipe et dans du travail, dans un temps de réveil sur le pays, et ensuite au Congo et ensuite au Tchad. Et on est revenu donc il y a 20 ans exactement, et on a continué et, dans cette perspective-là, sachant qu'on était sur des terrains vraiment très différents, avec des mentalités différentes et avec des historiques très différents. Donc je me suis rendu compte, il m'a fallu pas mal de temps pour faire le transfert de l'un à l'autre et pour essayer de dépouiller. Encore aujourd'hui, il y a des trucs, je me rends compte que je dis souvent à mes collègues pasteurs, je sais que sur certains côtés, je ne suis pas très adapté à la France. Et donc il y a des trucs que j'ai ingurgités et qui m'ont formé à la base et que je ne retrouve pas ici. Parfois, je ne suis pas toujours dans les cadres. Dieu nous change avec le temps. Heureusement. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, donc, on s'est retrouvé avec Jean-Marc, quelques-uns, dans une connexion de réseau apostolique en France, en fait. Donc, nous, depuis quelques années, avec Fabienne, on fait partie du réseau Antioche, qui est basé à Dijon, ceux qui connaissent Michel Marvan. Donc, c'est lui qui en est à la base. Donc, c'est un réseau qui travaille à la fois sur la France, mais aussi beaucoup sur l'Afrique, sur le terrain d'un ancien travail missionnaire, hein, qui a été réaménagé en réseau avec des églises existantes. Et on travaille donc dans cette connexion de réseau en France. C'est pour ça que je voudrais un petit peu aller sur ce sujet ce matin pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire, nous ici, par exemple, sur une région ou sur un pays. L'objectif, c'est de se dire, finalement, il y a tous, ou je pense la plus grande partie, on appartient déjà à des mouvements, à des familles d'églises, à des dénominations, certains à des réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre d'aller plus loin ? Comme l'a dit très justement Jean-Marc tout à l'heure, on peut faire partie d'une fédération, de la Fédération des protestantes ou du CNEF, tout en étant impliqué dans un travail de réseau qui est tout à fait qui est différent, mais chacun ayant sa valeur. Alors, je voudrais un petit peu, j'ai essayé de regarder dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous parle de réseau ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une invention du 21e siècle ? C'est-à-dire, tiens, tout d'un coup, le mot est sorti du chapeau. Ils ont inventé RNC, donc le réseau Nouvelle Connexion. Donc voilà quelque chose qui est à la mode. On va rentrer dans le concept. À vrai dire, ça n'a vraiment rien de nouveau. Et quand on regarde comment se sont développés, et si vous regardez attentivement les Actes des Apôtres, comment se sont développées les églises et les équipes apostoliques, c'est vraiment quelque chose qui était dans la façon de travailler. J'ai regardé dans un premier temps qu'est-ce qu'on entend par réseau. Et une définition très simple, qui est très séculière, hein, du dictionnaire, un réseau, c'est un ensemble de personnes ou de groupes qui ont des centres d'intérêt, des engagements ou des responsabilités communes, et qui se relient pour poursuivre ensemble certains objectifs. Oui, c'est orienté sur un objectif et il y a donc une motivation, on va le voir, une vision des choses qui sont communes. Une image que je pense que vous connaissez, c'est le vol des oies sauvages. Hein, vous savez qu'elles volent en V. C'est un exemple de réseau. J'ai écrit « Les réseaux diminuent la résistance hein, ». Donc, elles volent en V. Ça veut dire que face au vent, donc vous en avez une qui est en pointe, elle vole un certain temps. Donc elle prend le vent en face, mais toutes celles qui sont derrière sont abritées, elles prennent le mouvement. Et quand celle qui est devant est fatiguée parce qu'elle a pris le vent suffisamment longtemps, eh ben elle s'écarte, elle va derrière, et c'est une autre qui prend devant. Résultat, chaque oie vole 70% de plus du temps que si elle était seule. Ça, c'est le résultat du réseau. Donc 70% plus efficace. Elle va être capable de voler 70% de temps plus longtemps. Autre réseau, je vous donne deux images parce que j'aime bien parler par les images. Cet homme là que vous voyez en blanc, c'est un certain Kipchoge, Eliud. C'est le seul homme kényan donc, qui a couru un marathon en moins de 2 heures. Il avait jusqu'au mois dernier, il avait encore le record du monde, il s'est fait grillé par un autre qui a 2 heures et 1 minute, là, je ne sais plus, je crois que c'est un Éthiopien qui lui est passé devant. Mais lui, dans une circonstance très précise, a couru une seule fois, c'était à Vienne, en Autriche, en 2019, le marathon en moins de 2 heures. Pourquoi ? En fait, c'est une course qui n'a pas été homologuée, donc son record n'a pas pu être enregistré, parce qu'il avait, vous voyez, comme vous avez sur l'autre côté de la photo, ils ont mis un groupe devant lui, ils ont mis des lièvres. Des groupes de lièvres qui étaient toujours devant lui sur les 41 kilomètres. Résultat, il était toujours couvert derrière ces gens-là. Donc les gens couraient devant lui en petits groupes de 2 ou 3. Quand ils étaient bien fatigués, c'était 2, 3 autres qui prenaient le relais, etc. Et puis lui, ils l'ont laissé. J'ai vu la fin de la course, c'est absolument étonnant. Il fait les 2 derniers kilomètres en sprint, tout seul. Et donc il a fait 1h59 et quelques poussières, donc il a passé en dessous des 2 heures. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un travail d'équipe. Regardez bien la photo de gauche. Vous le voyez lever la main au moment où il passe la ligne d'arrivée, mais tous ceux qui ont les lièvres qui sont derrière lui lèvent la main en même temps. Parce qu'en fait, c'est un gars qui a gagné, qui a battu le record du monde, mais c'est toute une équipe qui a travaillé pour ça. Ça, c'est, vous voyez, ça vous donne une image de ce qu'on peut faire en réseau, qu'un seul ne peut pas faire. Ou quand même une équipe, que même une dénomination ou une famille d'église ne pourra jamais faire toute seule. D'où l'importance d'aller dans ce sens-là. Donc je continue, ça va, vous êtes toujours là. Hein, donc caractéristiques du travail en réseau. Je ne suis pas encore sur les réseaux apostoliques, hein, je suis juste dans des définitions classiques, générales. Donc pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un travail en réseau? Il faut d'abord un pôle d'intérêt, un pôle d'activité ou un destin commun, ce que nous, on va peut-être mettre sous le mot d'une vision commune. Hein, vraiment, on a un objectif, voilà, donc une vision, quelque chose pour lequel on est passionné. Deuxièmement, des valeurs, on va être d'accord sur certaines valeurs, hein, sur lesquelles on ne va pas transiger, on va être d'accord d'avancer, mais pas n'importe comment, pas dans tous les sens et pas à n'importe quel prix. Mais on va trouver des valeurs bibliques. Ensuite, il y a un projet, des objectifs communs, donc ça qui se mesure et qui vont se développer avec le temps. Et puis une certaine organisation, il en faut. Hein, il peut, donc un responsable, une équipe, quelques règles de fonctionnement, mais très, très minimales. On n'est pas du tout dans du règlement intérieur ou dans des choses qu'on connaît parfois. C'est quelque chose qui est très, on va le voir, c'est très horizontal en réseau. C'est pas du tout vertical, c'est pas du tout pyramidal, c'est très horizontal. Et puis, bien sûr, il faudra un minimum de moyens. Donc tout ça, c'est des. Si vous avez besoin du PowerPoint, je vous le laisserai. Hein. J'ai pas de droit d'auteur. Donc, vous voyez, le travail de réseau va dans ce sens-là. C'est qu'on met nos forces en commun vers un objectif qui est très précis pour une vision commune. Il y a un esprit réseau. Hein, c'est un état d'esprit et un style d'action qui privilégie d'abord le contact personnel. Hein, on commence par les plus proches, puis on va vers les plus éloignés. Et puis, c'est basé sur de la relation, sur l'échange et la communication. Et les relations ne sont pas hiérarchiques ni verticales, mais elles sont beaucoup plus horizontales. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des degrés de responsabilité, comme toujours, il en faut. Mais on n'est pas du tout sur un système top-down, hein, comme on dit, où tout est hiérarchisé, où tout est programmé à partir d'un cerveau central. Non, c'est beaucoup plus une mise en commun. Et ce qui est intéressant, je vais finir encore deux diapos là-dessus, c'est que les réseaux engendrent des mouvements. C'est-à-dire que les réseaux sont des lieux de rencontre qui créent quelque chose de plus grand que ce que chaque entité pourrait faire par elle-même. C'est ce qu'on appelle le principe de la synergie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dégage à un moment, on n'est plus dans de l'addition, c'est plus 1 plus 1 plus 1, mais ça devient multiplicatif. Hein, et ça se développe, par exemple, en capacité d'initiative, de créativité, comme ça a été dit, en capacité d'innovation. Hein, et donc, ce qui est intéressant encore, c'est que dans les réseaux, des novateurs qui agissent sur un micro-réseau se rencontrent, et là, ces micro-mouvements peuvent devenir des grands mouvements, des macro-mouvements. Il y a une synergie entre des gens créatifs, entre des gens qui ont la même passion, qui ont le même désir et qui vont mettre ça ensemble. Alors ça peut être pour de l'implantation d'église ou de l'évangélisation, mais comme ça nous a été dit avant, ça peut être dans tout autre domaine qui touche la progression du royaume de Dieu. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans les arts, ça peut être dans le monde du travail, etc. Donc, il y a une réalité là-dedans qui est extrêmement, ouais, qui est extrêmement forte, que le monde connaît. Faut pas... Internet et tout ça, c'est des réseaux. Vous connaissez la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, hein, donc ce n'est pas des mots étrangers à notre monde. Mais il y a une réalité qui est fortement biblique. Et on va y arriver. Ça va, vous me suivez jusqu'ici? Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux d'églises et d'équipes? Il y aurait évidemment énormément, mais je vais juste prendre cette image. Jésus dit dans une parabole, Matthieu 13, le royaume des cieux ressemble à un filet. Vous voyez, vous connaissez ça? Jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Donc, hein, cette notion du filet avec du maillage, vous voyez de quoi il s'agit. Donc, j'ai écrit avec un filet, on peut enfermer, tamiser ou pêcher. C'est un choix. Hein. Donc, un filet peut nous enfermer, peut nous étouffer, peut nous faire mourir. Mais ça peut aussi ramener des poissons. Donc, ça dépend comment on va s'en servir. Ça dépend à quel but on va fonctionner dans ces choses-là. Et donc, j'ai mis le réseau donc prend la place d'un système pyramidal d'organisation qu'on a souvent connu. Hein, c'est beaucoup plus horizontal et c'est beaucoup plus dans la dynamique des relations. Je vous explique encore, hein, comme je l'ai dit, ça n'exclut pas qu'il y ait des gens qui aient plus de responsabilités. On va le voir dans un réseau apostolique, par exemple, dans une équipe apostolique. Mais c'est important qu'on comprenne ce type de relation. J'ai essayé de regarder dans le Nouveau Testament, je vais vous donner deux exemples où je vois du fonctionnement en réseau. Deux exemples bibliques qui sont sur des domaines très différents. Le premier que j'ai repéré, c'est dans Acte 15. Ce qu'on appelle la première rencontre de Jérusalem, le concile de Jérusalem, ce que certains appellent le premier concile ou synode. Je vous situe l'histoire. Hein, on est à la fin du premier voyage de Paul et Barnabas. Donc, rappelez-vous, peut-être il faut que je fasse... Je vais quand même faire un petit historique. Hein, rappelez-vous, on est dans Acte 13 d'abord. Il y a une église locale à Antioche. Je vous résume vraiment ça très vite parce que je pars du principe qu'on connaît tous ces choses-là. Le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul ». On est OK? Et on voit que Barnabas et Saul vont partir avec Jean-Marc, pas lui, hein, un autre. Et donc, ils sont partis à trois, puis ils sont retrouvés à deux, mais ils sont partis en tant qu'équipe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit dans Actes 13 et 14, hein, c'est ce qui est dans la partie jaune, vers la partie verte, il est dit qu'ils ont évangélisé, ils ont fait des disciples, et ils ont regroupé les disciples en communauté. Puis ils sont allés de lieu en lieu, hein, et dans Actes 14, 21, on nous dit qu'ils sont repassés dans les endroits où ils étaient, et ils nommèrent des anciens dans chaque église. Donc ils ont pris soin d'établir des responsables locaux, des dirigeants locaux, puis ils sont allés plus loin. Et donc on voit que l'équipe apostolique a contribué à renforcer les églises locales, desquelles sont nés d'autres ministères, etc. On voit qu'il y a un circuit permanent entre ces équipes et l'implantation d'églises locales. C'est quelque chose qui est circulaire et qui vous donne ensuite un grand réseau comme celui-ci où vous voyez qu'il y a des centres qu'on appelle églises apostoliques, centres apostoliques comme vous voulez, comme Jérusalem, comme Antioche, ensuite Éphèse, Corinthe, etc. La Bible, le Nouveau Testament nous parle de plusieurs et on voit qu'il y a une connexion entre ces centres par les équipes apostoliques. Hein, je fais ça vraiment très schématiquement. Mais on voit cette réalité, église locale, équipe de ministère. Donc je pense, Jean-Marc vous en parlera plus en détail cet après-midi, selon le modèle Éphésiens 4. Et puis, création de réseaux, et il y avait des connexions entre ces équipes. Dans Acte 15, je reviens à mon texte, donc on est à la fin du premier voyage de Barnabas et Paul. Et il y a une discussion doctrinale. On va voir que l'importance du réseau pour la cohérence doctrinale, pour la cohérence de l'enseignement. Il est dit qu'il y avait de la discussion parce que l'Église, je rappelle que l'Église est d'abord juive, les premiers chrétiens sont tous d'origine juive, puis avec l'implantation d'Églises en milieu païen, avec le ministère surtout de Paul, Barnabas et d'autres, de plus en plus de païens entrent, donc des gens d'origine païenne entrent dans l'Église, deviennent chrétiens, et il y a un choc doctrinal. Il est dit qu'à Antioche, donc qui était le berceau, je dirais, de l'envoi vers les églises, vers les païens, vers les nations, il y a une discussion, des gens arrivent de Jérusalem, ils disent non, mais il faut circoncire les nouveaux chrétiens d'origine païenne, il faut qu'ils se soumettent à la loi de Moïse, etc. Donc il y a une discussion. Il est dit, acte 15, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères. Et il disait, si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voyez-vous, l'enjeu est majeur. Ça concerne le salut, mais ça concerne aussi potentiellement une scission dans l'Église pour cette question de doctrine. Et il est dit, il y a eu un vif débat, verset 2, et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux. Et on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie, la Samarie. Ils racontèrent en détail la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres, les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Je m'arrête là au verset 4. Vous voyez là, ce que je note ici, bon, j'ai 8 points là-dessus, mais je vais aller très très vite, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a une divergence doctrinale profonde. Et voyez-vous l'importance de la connexion entre équipes apostoliques. Barnabas et Paul n'ont pas dit « Ah mais nous, de toute façon, les païens, c'est notre domaine, on va régler la question tout seul. » Beaucoup d'humilité. Beaucoup de soucis d'unité. Il est dit qu'il y a une discussion violente. Donc quand le Nouveau Testament dit « vive discussion », c'est comme plus tard entre Barnabas et Paul, ça a chauffé, quoi, en gros. Et ça veut dire qu'il y a réellement une menace de scission. Et il est dit qu'ils ont décidé, il est dit que l'Église d'Antioche, donc les dirigeants locaux, plus les apôtres, plus tout le monde a dit « on va aller mettre la question avec les aînés à Jérusalem ». Il y a un grand respect mutuel entre équipes apostoliques et entre ministères. Il n'y a pas la volonté de faire son empire, de dire « Ah ben non, là c'est nous, c'est nos églises, c'est nous qu'on les a implantées, donc c'est nous qu'on va faire la loi. » Pardon, excusez-moi mon français. Mais il y a vraiment un souci d'unité profonde, on le verra, le ministère apostolique est entre autres à ce souci-là, et un souci de cohérence. Et donc, Antioche n'est pas une église indépendante, Barnabas et Saul ne sont pas des apôtres indépendants, et ils ont le désir réellement, d'abord de confronter leurs propres convictions avec leurs aînés dans la foi, avec ceux qui ont commencé un tout petit peu avant eux. Et donc, il y a ce souci, donc ils vont descendre, ils vont faire la route, et à Jérusalem, pareil, ils ne sont pas accueillis juste en petit cercle entre grands, non, ils sont accueillis par l'Église. Par les anciens. Les anciens vont même participer au débat, que je vais abréger sur la question, mais ils vont participer au débat. L'Église va être partie prenante avec eux, et c'est là où on voit le filet, l'état d'esprit réseau, l'état d'esprit unité du corps, l'état d'esprit expansion. De se dire, on ne veut pas régler juste les choses, on ne veut pas non plus mettre en péril une autre partie du corps de Christ, on va faire au mieux pour gérer ces choses-là. Et donc, ils vont être. Vous avez le débat à Jérusalem, je ne reviens pas là-dessus. Notez leur capacité de s'écouter les uns les autres. Ce qui me surprend dans ce que j'ai lu aussi, c'est que Barnabas et Paul, on nous dit, quand ils vont redescendre sur Jérusalem, ils traversent la Samarie. Eux, en bons juifs, On parlait tout à l'heure de la transformation des nations ou des régions, mais avant cela, les Juifs ne traversaient pas la Samarie. Mais depuis qu'il y a des frères en Samarie, les chrétiens, les Juifs peuvent traverser la Samarie sans péril. C'est-à-dire qu'il y a une transformation réelle dans les endroits où l'évangile se répand. Il n'y a plus ces préjugés ethniques, ces préjugés religieux entre tel et tel. Il y a une réelle influence du royaume. Et ils vont le montrer, je dirais, au paroxysme, hein, quand ils se retrouvent là. Donc, on nous fait un résumé des débats. Pierre parle, parce que c'est lui qui a été le premier à prêcher à Pentecôte. Paul et Barnabas racontent leur témoignage. On les écoute. Bien que l'assemblée de Jérusalem soit remplie d'anciens juifs venus à Christ, mais il y a une écoute mutuelle, un respect. Et puis finalement, vous savez que Jacques va se lever, Jacques cite Amos, et il dit sur cette base-là, hein, on ne va pas charger les païens qui viennent à Christ de fardeaux que nous-mêmes et nos pères, on n'a jamais été capables de porter. Vous voyez à la fois l'inspiration de l'esprit, mais j'allais dire le bon sens. L'ouverture de cœur. Hein. Et donc, on connaît la fin, hein, donc ils vont prendre une déclaration commune, ils vont faire une lettre commune. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Hein, vous voyez cette association qu'il y a, quand, c'est clair, quand des hommes, des femmes de Dieu se respectent, décident de travailler ensemble, malgré certaines approches différentes, le Saint-Esprit est là. Et il y a une action de l'esprit. Et donc, ils vont faire cette déclaration, ils vont l'envoyer par lettre à toutes les églises. Il y aurait eu Internet à l'époque, ça aurait été plus vite avec WhatsApp. Mais ils ont fait avec les moyens de l'époque. Et vous avez remarqué que même pour attester ça, deux hommes de Jérusalem, Jude et Silas, vont monter jusqu'à Antioche, là-bas où il y avait les contestations, là où il y avait le foyer de friction, pour attester que les gens de Jérusalem, qu'une fois encore, ce n'est pas Barnabas et Saul qui ont maquillé la lettre de recommandation à tout le monde, mais que tout est fait dans l'harmonie, même s'il y a des arrière-plans différents. Vous voyez, l'importance du réseau ici et de ces interconnexions pour la préservation, je dirais, de la bonne, d'un enseignement sain, d'une doctrine saine dans l'Église et éviter une scission. Vous avez un deuxième exemple, je pense que ça vous le voyez aussi dans Galates 2. Je vais rapidement, c'est Paul qui raconte sa démarche avec ceux de Jérusalem. Alors, à mon sens, ça se passe à un autre moment, ça ne rapporte pas du tout acte 15. C'est d'autres épisodes, hein, de toute évidence, c'est pas à la même époque. Mais Paul dit dans Galates 2, il raconte son parcours dans le chapitre 1, sa conversion, son parcours, j'allais dire un peu en solo, hein, en Arabie, etc., à l'écart. Et puis il dit, après 14 ans, je suis monté à Jérusalem avec Barnabas. J'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté suite à une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés pour ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc Paul avait développé des églises en Syrie, puis plus tard en Cilicie, sa contrée d'origine, hein, Tarse. Et donc il a travaillé visiblement pour le Seigneur dans l'ombre. Hein, il a été dans l'implantation d'églises, etc. Et puis, mais oui, c'est un gars humble. À un moment, il, bien qu'ayant toute son auréole d'apôtre, Paul, il est allé soumettre à Jérusalem l'évangile qu'il prêche. Hein, il est allé vérifier, il est allé voir, là encore, auprès de ses aînés dans le ministère, si ce qu'il prêche aux juifs tient la route, aux non-juifs, pardon, tient la route. Hein, donc, et il dit bien qu'il a rencontré, à ce moment-là, Pierre et Jean. Il dit bien, verset 7, hein, je suis toujours dans Galates 2, « Quant à ceux qui sont les plus considérés, » il dit bien, donc il parle de Pierre, Jacques et Jean, hein, les trois colonnes, il dit « Ils ont vu que l'évangile qui m'avait été confié, pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des non-juifs, et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. » Étonnant, hein, la grâce. Ça vous rappelle peut-être quelque chose là, de quelques minutes auparavant. Hein, la grâce qui m'avait été accordée. Et donc, Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme les piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Vous voyez, la reconnaissance mutuelle, le respect des équipes entre elles, hein, le respect des ministères qui sont dans ces équipes, le respect des églises entre elles, parce qu'ils représentent chacun tout un chapelet d'églises et tout un ensemble d'églises. Et donc, le résultat dans ce cas-là, c'est quoi, hein? À Jérusalem, la première fois, on a vu le résultat, c'est de garder l'unité et dans la saine doctrine. Là, dans ce cas précis, les uns sont mandatés vers les juifs, les autres vers les non-juifs. On voit l'expansion du royaume. Hein, c'est une connexion entre ministères, mais beaucoup plus que simplement d'individus, de réseaux ou d'équipes apostoliques qui travaillent dans des champs différents, avec des populations différentes, avec des cultures différentes, dans des nations différentes, dans des lieux géographiques différents. Mais tout ça, les uns bénissent les autres et vice-versa. Et je crois que ça nous montre, c'est juste deux exemples, où, là je vais vraiment très vite, qui nous montrent la pertinence de cette connexion de réseau que nous cherchons, que nous voulons sur la France, sur la francophonie, que d'autres vivent à une échelle beaucoup plus large, mondiale, hein, et qui n'est pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça aujourd'hui, mais qui est réellement une réalité qui était vécue avec d'autres mots, avec d'autres réalités à cette époque-là, mais que les premières églises, les premières équipes apostoliques ont réellement vécu, conduits par le Saint-Esprit. Alors, je voudrais, il me reste 10 minutes, 4 bases pour un élément pour un réseau apostolique. Je donne 4, il y en a d'autres, mais 4 choses qui semblent importantes. D'abord, reconnaître le ministère apostolique. C'est évident. Hein, encore faut-il qu'on soit dans cette chose-là, parce que ça sera expliqué après moi cet après-midi, mais il y a un rôle clé sur les 5 ministères, donc apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants, prophètes, hein, les 5, donc avec un rôle clé, effectivement, sur le rôle apostolique. Donc, et j'ai bien mis un apôtre reconnu et une équipe apostolique. C'est pas un seul homme. C'est pas une seule personne, ça repose pas juste sur quelqu'un, hein, qui est loin de l'Éternel. Vous savez que vous pouvez être loin de l'Éternel, être très loin de l'Éternel. Donc il faut faire très attention. C'est important que ça repose pas juste sur l'onction d'une personne, qui est une réalité, mais c'est une onction qui est communautaire, qui est partagée avec une équipe. Donc il faut qu'on soit au clair sur ces choses-là. Pourquoi et à quoi ça correspond. Un deuxième élément, c'est j'ai écrit une atmosphère de relations dynamiques. Vous voyez, la clé, c'est vraiment les relations, la qualité des relations, et pas des relations juste pour être bien ensemble. Je me souviens d'avoir été invité il y a des années en arrière, dans un autre pays, à une consultation apostolique. Et J'ai participé, c'était sur 2 jours et demi, et il y avait vraiment une super ambiance, hein. C'était très international. On était un petit groupe, on devait être une quinzaine à peu près, mais donc j'ai demandé au leader, mais c'est celui qui dirigeait un peu tout ça depuis plusieurs années, je dis, mais quel est le but, où est-ce qu'on va dans cette... Et le seul mot qu'il me disait, c'est la communion, fellowship. Communion, tout le temps, il me disait ça. Et je dis, ok, mais moi, je suis ressorti de ce truc-là. C'était super, les temps qu'on a vécu. Je dis, mais quand on doit se rencontrer, il doit y avoir autre chose. Si on est vraiment un inter-réseau apostolique, ça doit amener à des choses qui nous dynamisent, qui nous donnent des perspectives nouvelles, qui vont nous donner des objectifs, des trucs qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a pas réussi à atteindre tout seul. Là, tout d'un coup, on trouve de la ressource, on trouve des gens inspirants. On trouve peut-être des gens qui ont la même qui brûlent de même passion que nous, mais qu'on n'avait jamais rencontré, et peut-être qu'on va pouvoir s'associer pour faire quelque chose ensemble, etc. Bref, c'est dynamique, donc, et à tous les niveaux, entre ministères et église, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de classe, il n'y a pas une caste de dominants et puis une sous-caste d'exécutants. C'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, dynamisant, et qui est extrêmement valorisant pour chacun. Et ça c'est extrêmement important dans un réseau apostolique. Je vois, on était, nous, il y a une semaine, une ou deux semaines pour Pâques. On a chaque année notre convention de réseau à Dijon, mais on ressort d'une journée et demie, mais on est boosté. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu des messages extraordinaires, il y avait de très bons messages, mais il y a une dynamique de relation. On voit qu'il y a de la croissance en perspective. On réfléchit entre autres sur l'implantation d'église, mais nous, on est, à la différence de RNC, on est très en retard, nous, sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et là, il y a un groupe qui est en train de naître, justement, de gens qui sont dans le monde de l'entreprise, qui ont déjà de l'expérience dans d'autres sphères, et qui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du réseau ? Ça devient intéressant. On commence à toucher d'autres domaines que nous, que moi, je vous dis honnêtement, dans lesquels je suis absolument ignorant. Mais je me dis, ça, ouais, c'est parce que ça fait effectivement partie d'une vision beaucoup plus large. Donc, une atmosphère de relations dynamiques dans l'individuel comme quand on se rassemble. Parce qu'on avance dans le même royaume, même si on n'a pas les mêmes sphères d'activité. Mais on sent que ça converge vers la même chose, avec le même esprit. 3, une vision et des objectifs clairs, donc en vue de développer le royaume. Pas développer simplement notre secteur, pas simplement développer notre espace, mais beaucoup plus large, enrichi par la vision des autres. Et 4, un ensemble d'églises et d'œuvres qui cultivent un caractère apostolique. On peut avoir une vision apostolique, on peut avoir une aspiration à ces choses-là. Mais je vois par expérience quand même de quelques dizaines d'années maintenant que c'est parfois très compliqué à entretenir. On peut avoir des grands élans, on peut être boosté par des moments de convention, de rassemblement, etc. Mais après, au quotidien, comment rendre notre Église apostolique ? Comment vivre au quotidien la dimension apostolique dans notre église locale, comme on le disait, du lundi au dimanche ou du dimanche au lundi, ou dimanche d'après, comme vous voulez, mais de l'incarner concrètement dans la vie des croyants. Ça, c'est un de nos défis, je pense, entre autres en France. Mais voilà 4 éléments. Je prétends pas avoir fait le tour. C'est très sommaire, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Et je termine avec 3 priorités dans le réseau. Je vous ai dit, ça ressemble à un filet. Premièrement, c'est les relations. Vraiment soigner la qualité des relations. Et il y a des moments où il faut laver le filet. Si nous confessons nos péchés, il est dit, 1 Jean 1,7 nous dit que nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Et qu'il y a cette nécessité de vivre dans une grande humilité. Rappelez-vous l'exemple de Paul avec les autres apôtres, avec ceux de Jérusalem. Rappelez-vous Barnabas lui-même, qui était aussi issu de Jérusalem, le respect, le désir de communion qu'il y avait et de relations saines qu'il y avait entre eux. Donc, mais à certains moments, il ne faut pas se le cacher, les relations ont besoin d'être nettoyées. Elles ont besoin d'être entretenues. Donc, 1, les relations. 2, les ministères, vous le savez, Éphésiens 4, sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour la multiplication. Et il y a des moments où il faut réparer le filet. 4, 12, parle de catartismos, ce mot qui dit qui est traduit par équiper les saints, ou qui est traduit parfois par perfectionner les saints. C'est un mot en grec d'origine, qui en fait c'est un mot qui est issu de la médecine. Qui veut dire, à la base, quand vous avez une luxation des os, par exemple, si vous avez votre épaule qui est sortie de sa capsule, il faut la remettre en place pour qu'elle retrouve sa place dans l'articulation. C'est ce mot-là qui veut dire. Ça veut dire réaligner, remettre en place des os qui étaient déplacés, les remettre. C'est exactement ça l'un des rôles des ministères. C'est toujours de réaligner le peuple de Dieu, toujours réaligner, d'équiper les saints et de réaligner le travail que nous faisons. C'est le même mot quand il est dit que Jésus appelle les disciples au bord du lac de Galilée, il est dit qu'il y en avait 2 qui réparaient le filet, Jean et Jacques. Ils réparaient le filet, c'est toujours ce même mot qui est là. Donc il y a cette importance donc des relations qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer, de la reproduction et du perfectionnement. Et 3, ne jamais perdre de vue la mission. Un filet est fait pour être jeté et pour être ramener. Je ne sais pas si vous avez lu La Grande Traversée d'Astérix. J'ai un vieux souvenir là-dessus, mais à un moment, il y a Astérix qui dit à Obélix, jette le filet. Et il a jeté le filet. Le problème, c'est qu'il n'avait pas compris. Il n'était pas marin, il était constructeur de menhirs. Donc, il ne savait pas qu'il fallait garder un bout du filet pour pouvoir le retirer. Donc, excusez-moi pour la comparaison, mais on est gaulois, donc pour la plupart, donc on se comprend. Mais toujours est-il que le filet est fait pour être jeté, pour qu'on aille à la pêche et qu'on ramène. Et donc, ne jamais perdre de vue dans un réseau la mission. Parce que, encore une fois, on est toujours attiré par le confort d'être ensemble. Et c'est pas, c'est bon. Il faut, franchement, si vous faites partie d'une famille d'église ou d'un réseau d'église où vous vous sentez mal, il y a un problème. On doit se sentir bien dans la famille. On doit se sentir bien avec les proches avec qui on travaille, dans le même objectif. Mais le but, ce n'est pas juste d'être bien ensemble. Le but, c'est d'aller en avant pour la mission qui nous a été confiée. Amen. Et je termine avec ça et puis je vais laisser les places aux questions. L'interconnexion, donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. Juste vous montrer ça. Nous avons trois choses que Jésus nous a laissées. La grande mission. Matthieu 28, allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Donc c'est Matthieu 28, c'est allez, la grande mission. Le grand commandement, je crois qu'on a tous entendu ça déjà, hein, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Marc 12. Et puis il y a un troisième aspect qu'on a souvent négligé, c'est le ensemble. Ce qu'on appelle ici la grande collaboration. C'est-à-dire, cette notion, c'est la prière de Jésus dans Jean 17, qu'il soit un, comme nous sommes un, je vous rappelle la suite, afin que le monde croit. Donc, ça fait partie, hein, l'unité, l'amour que nous manifestons entre nous, donc on en est toujours dans ces notions de relation, de réseau, nous amène à témoigner, à être un témoignage, pas faire de l'évangélisation, mais être tout simplement un témoignage face à un monde qui est divisé. Et donc, ces trois choses, la mission de Jésus, elle est au centre de ces trois choses. Et on a, je crois qu'on est dans un temps, et je dirais face à un monde tellement divisé, tellement, divisé entre générations, entre communautés, entre races, entre ethnies, etc. Dans un monde tellement entre partis politiques, entre riches et pauvres, enfin, tout ce qu'on peut voir ou entendre aujourd'hui, dans un monde tel dans lequel nous sommes, qui à mon avis n'est pas pire que le monde du temps de Jésus, simplement on a des moyens plus sophistiqués pour le rendre pire, mais dans le cœur c'est pareil, eh bien l'Église incarnait autre chose. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Vous pouvez devenir un mouvement tout seul, mais nous ne remplirons jamais la grande mission si nous ne sommes pas ensemble. Et c'est mon dernier mot. Que Dieu nous bénisse.